Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est midi à Brazzaville au Congo. Au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans de nouveaux combats à Bangui entre l'armée et des milices aux abords du PK5, quartier abritant la majorité des musulmans de la capitale centrafricaine, selon des sources concordantes. Les corps de 3 personnes ont été amenés à la mosquée Ali Babolo du quartier, a indiqué l'imam. Un chauffeur de taxi a de même été tué, a indiqué une source médicale. 23 personnes ont été blessées, selon plusieurs sources médicales, dans les quartiers à la frontière entre le PK5 et le quartier Miskine de Bangui. Le ministre congolais de l'Intérieur, Henri Mova, a déclaré jeudi ne pas pouvoir confirmer le meurtre par décapitation de 3 militants du parti présidentiel au Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, comme annoncé par la famille d'un des 3 hommes. Le fils d'une des 3 victimes présumées avait déclaré mercredi que son père et les 2 militants avaient été interceptés sur le territoire de Dibaya, dans le Kasaï central, alors qu'elle portait des t-shirts à l'effigie d'Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat de la majorité à l'élection présidentielle, avec le logo du PPRD, le parti présidentiel. Au Congo voisin, au Congo-Brazzaville, les avocats de l'État ne se sont pas présentés hier au procès sur le drame de Chakona à Talangaï. Il s'agit de la mort de 13 jeunes dans un commissariat de police et l'État congolais, reconnu civilement responsable par le juge, doit assister au procès. Les explications avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
L'audience d'hier n'a duré qu'une quarantaine de minutes. Les débats se sont focalisés sur la participation ou non de l'État au procès, cité civilement responsable dans cette affaire. Pour les avocats de la partie civile, il faut que l'État soit représenté à ce procès. Selon maître Eric-Yvan Ibouanga, la présence de l'État faciliterait la comparution des officiers de police que la partie civile compte citer au cours du procès. Le parquet de Brazzaville a estimé avoir fait son travail en déposant la saisine du tribunal auprès du ministère de la Justice, demandant à l'État d'être représenté. Désormais, la balle est du côté du tribunal, a déclaré le procureur de la République. De leur côté, les avocats de la défense, qui ont la charge d'une douzaine de policiers, ont plaidé pour que le procès aille vite dans le fond, car la loi congolaise ne reconnaît pas la responsabilité pénale d'une autorité morale. Le jugement a donc été renvoyé au 6 décembre, un renvoi ferme pour permettre à l'État de se constituer et de suivre les débats. En juillet dernier, 13 jeunes avaient trouvé la mort dans un commissariat de police à Talangaï. Les parents avaient porté plainte contre l'État. 12 policiers, dont 2 adjudants-chefs, sont accusés d'homicide involontaire et comparaissent comme détenus à la maison d'arrêt. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
La nouvelle composition de la commission Vérité et Réconciliation au Burundi, adoptée jeudi par l'Assemblée nationale, suscitait aujourd'hui les critiques de l'opposition, notamment la nomination à sa tête de l'ancien président de la commission électorale lors des élections controversées de 2010 et 2015. La nouvelle CVR, constituée de 13 commissaires presque tous issus ou proches du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est désormais dirigée par Pierre Claver Ndayikariaye, l'ancien président de la commission électorale de 2009 à 2018. Il a été élu jeudi par l'Assemblée nationale en lieu et place de Mgr Jean-Louis Naïmana, un prélat catholique très respecté qui était candidat à sa succession.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Sénégal, le parti au pouvoir a lancé son rouleau compresseur à 3 mois de la présidentielle. La coalition du président sénégalais, Macky Sall, a sonné la mobilisation pour sa réélection dès le premier tour, alors que ses principaux rivaux sont écartés de la cause par des décisions judiciaires. Le 24 février, jour du premier tour, à 18h, le tour sera déjà joué, a déclaré le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dion lors de la réunion d'investiture du président sortant organisée par les cadres de la majorité, selon des propos rapportés jeudi dans la presse sénégalaise. Le principal parti de l'opposition au Nigeria a demandé des comptes au gouvernement sur sa gestion du conflit dans le nord-est du pays contre Boko Haram, qui intensifie ses attaques et a tué au moins 44 soldats au cours du week-end. Atiku Abubakar, le candidat du Parti populaire démocratique, PDP, à la présidentielle de février 2019, qui affrontera le président Muhammadu Buhari, a envoyé un message de condoléances aux familles des victimes et dénoncé jeudi, dans un communiqué, le manque de moyens mis en œuvre dans l'armée. Toujours au Nigeria, le développement de l'agriculture reste un défi à relever pour les autorités fédérales. Parmi les problèmes, citons notamment le faible accès au crédit, le manque de semences de qualité et d'infrastructures et un régime foncier obsolète. Cette situation est à la base de l'exode rural des jeunes qui abandonnent l'agriculture. Notre correspondant Gilbert Tamba fait le point sur l'intervention d'une start-up dans le domaine agricole.
Plus de 80% des agriculteurs du Nigeria sont de petits exploitants. Ces producteurs jeunes jouent un rôle dominant en termes de contribution au produit intérieur brut du pays et représentent principalement la main-d'œuvre qui produit 98% des aliments consommés dans le pays. Problème, ils reçoivent très peu de soutien. Aucune politique ou intervention institutionnelle du gouvernement n'aborde le dilemme des petits agriculteurs. Résultat, nombreux abandonnent leur village pour se lancer dans d'autres business, notamment devenir conducteur de moto-taxi, principal moyen de transport dans les quartiers d'Abuja, la capitale fédérale. Ayuba Samaïla est l'un d'eux.
Nous n'avons pas d'argent pour acheter de l'engrais, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Abuja pour chercher de l'argent pour aller acheter de l'engrais. Et parfois, l'engrais coûte très cher aussi et nous n'avons pas d'argent. Si vous cultivez par exemple le maïs ou le gingembre, et si vous n'avez pas d'engrais, le tout va se gâter à cause du manque d'engrais et d'argent.
Comment aider ces petits exploitants agricoles à améliorer leur rendement? C'est l'objectif qui s'est fixé Thrive Agric, une start-up du secteur de l'agrotechnologie au Nigeria. C'est l'une des 12 start-up sélectionnées par Google. Uka Eje est le cofondateur de Thrive Agric.
Nous avons remarqué que les cultivateurs ont trois problèmes essentiels. L'argent pour financer leurs champs, donc l'absence de système de financement, le pauvre rendement agricole, par exemple un champ d'un hectares qui pouvaient produire 4 à 5 tonnes, ils ne vont récolter qu'une seule tonne et dans certains moins d'une tonne et en plus aussi ils n'avaient de contrats commerciaux.
À ce jour, plus de 1900 petits exploitants agricoles bénéficient de l'assistance de la start-up au Nigeria. Le financement de ces projets permet aux bailleurs de fonds d'être informés régulièrement sur toutes les activités et les rendements agricoles. Dans cette localité de Guéré, la start-up exploite quelques 325 hectares et pourrait atteindre les 510 d'ici 2019. 32 superviseurs contrôlent chacun 10 hectares. John Buhari Waziri est le coordinateur général.
Je travaille avec Thrive Agri parce que l'homme doit travailler pour son vivre et autre raison est pour acquérir de l'expérience. J'ai travaillé avant avec le gouvernement, avant même si cela n'était pas dans le domaine agricole, mais ici je gagne de nouvelles compétences pour me permettre d'avoir ma vie.
La start-up a lancé ses activités en juillet 2017. Thrive Agric ne veut pas limiter ses opérations au Nigeria seulement, mais entend graduellement poursuivre ses activités dans d'autres pays. Objectif, atteindre plus de 500 millions de petits exploitants agricoles en Afrique. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le président français Emmanuel Macron va recevoir aujourd'hui un rapport proposant une évolution de la législation afin de restituer aux États demandeurs des milliers d'œuvres d'art africains arrivées pendant la colonisation et se trouvant toujours dans les musées français. Ce rapport dresse un inventaire précis des dizaines de milliers d'objets que les colons ont ramenés d'Afrique en 1885 et 1960. Selon les experts, 85 à 90% du patrimoine africain se trouverait hors du continent. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, c'est arrivé aujourd'hui dans la ville stratégique de Hodeida où une trêve dans les combats est globalement respectée depuis une dizaine de jours. M. Griffith, qui venait de Sanaa, la capitale contrôlée par les rebelles houthis, veut favoriser une accalmie durable dans la cité portuaire de Hodeida que les forces pro-gouvernementales cherchent à reprendre aux rebelles. L'émissaire de l'ONU cherche à organiser des consultations de paix en Suède pour lesquelles il n'a pas encore fixé de date. Les États-Unis ont indiqué qu'elles auraient lieu début décembre. Et puis, au moins 20 personnes ont été tuées, une cinquantaine blessées aujourd'hui par une explosion dans un marché des zones tribales pakistanaises. Un précédent bilan faisait état de 9 morts et 27 blessés frontalières de l'Afghanistan. Les zones tribales forment une région où les talibans et Al-Qaïda ont longtemps opéré en toute impunité. Elles étaient devenues un des enjeux de la guerre contre le terrorisme dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes en compagnie d'Henri Francis. Bon après-midi à tous, bon week-end et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.